attributs de Dieu que David est en train de se dire, il a aussi ces questions. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière, donc de qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie, il m'entoure, il me garde dans sa main, donc de qui aurais-je peur? Quelles étaient les raisons de la peur de David? Il avait beaucoup d'ennemis, dans sa famille aussi et en dehors, des ennemis aussi nationaux. De qui aurais-je peur? Devant qui devrais-je trembler? C'est cette idée dans le deuxième verbe. De qui aurais-je peur? En dépit de la grandeur des situations adverses, le psalmiste regarde la grandeur de Dieu. Et ce contraste entre qui est son Dieu et ses problèmes rend insignifiant ses propres problèmes. Des méchants, des ennemis, Saül, son fils Absalom, beaucoup de nations qui étaient contre Israël. David avait beaucoup d'ennemis. Mais il a dit dans le psaume 56, « Là où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. » Dans d'autres psaumes, David a aussi demandé « Où es-tu, Dieu ? Pourquoi ? Jusqu'à quand devrais-je subir ?» Plein de choses. Mais souvent dans ces psaumes de lamentation, il revient à la fin pour se rendre compte de la fidélité de Dieu dans le passé. Et si Dieu était fidèle dans le passé, il ne peut pas se nier pour l'avenir. Une version anglaise dit de ce verset, « Avec Dieu à mon côté, je n'ai peur de rien et de personne. » Au verset 2, « Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. » Ses ennemis voulaient sa mort. Mais il a dit, « Moi, je reste sans crainte » au verset 3. « Je suis plein d'assurance parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut, celui qui me protège. » L'opposition et même la guerre ne le touchent pas parce que son cœur est fortifié en lui-même, pas dans son éducation, pas dans sa formation, même pas dans son identité, ni dans son rôle en tant que roi. Mais parce que l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. Cette confession de confiance dans l'amour de Dieu qui le sauve nous rappelle de la confession de Paul en Romains chapitre 8. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je suis d'accord avec Paul. J'espère vous aussi. La peur et les soucis semblent être une source de découragement. Continue. Il nous entraîne à passer à côté parfois des bénédictions que le Seigneur veut qu'on vive. On devient conditionné par la peur. On ne voit plus que les montagnes et on ne sait pas comment les franchir. Il y a beaucoup de raisons normales d'avoir peur. Ma mère a très peur des avions. C'est pour ça qu'elle, pour l'instant, ne veut plus nous rendre visite. Ça la paralyse. La dernière fois qu'elle est venue l'année dernière, il y avait une de mes sœurs qui l'a accompagnée pour le voyage à Genève et une autre qui est venue à la fin de la semaine pour la ramener. Lors du voyage de retour, elle tenait la banquette devant Et elle a fait mention à ma sœur que le capitaine qui venait de parler ne parlait pas du fait qu'il allait atterrir. Il a parlé de la météo et tout ça. Mais elle a raté un petit peu le fait que l'avion allait aussi descendre normalement. On peut avoir peur de son patron. On ne sait jamais ce qu'il ou elle va nous demander, quand il ou elle va être satisfait. On a peur de l'avenir, de l'inconnu, de notre niveau de santé financier, de notre travail ou de chercher un travail finalement et d'en trouver. L'inconnu est quelque chose qu'on ne contrôle pas et peut être aussi une raison de peur. Et nos enfants, ce qu'ils vont devenir, s'ils vont tenir le cap, s'ils vont suivre le Seigneur, s'ils vont revenir au Seigneur. Des soucis des parents. Et on a beau à nous dire que le Seigneur est plus grand que les montagnes, on n'arrive pas à s'en sortir, à voir au-delà. Et je me parle à moi-même aussi. Une crise met à l'épreuve notre foi. Et parfois, on ne regarde pas dans le bon sens pour chercher l'issue. Les disciples dans le bateau sur le lac se trouvaient dans les circonstances qu'ils ne contrôlaient pas. Jésus leur est apparu et voulait qu'ils se confient en lui aussi au milieu des tempêtes de la vie. Il était après minuit. J'étais tout seul dans une gare. On venait de me faire descendre d'un train accompagné de soldats armés, dont un qui disparut avec mon passeport. Le temps passait. Je ne savais pas ce qui allait arriver dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Je me trouvais à la frontière entre la Tchécoslovaquie et la Pologne. Le rideau de fer était encore bien en place. C'était l'été 89. Je me citais les versets de Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne contrôlais pas la situation et je devais me prêcher à moi-même. L'Éternel est ton berger, David, je ne manquerai de rien. La Bible parle beaucoup de soucis, comme si ça allait toujours être un sujet potentiel de bataille. Mais elle parle aussi de la foi au milieu de nos peurs. Dans un autre psaume, le 37, David dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Ne jalouse pas ceux qui font le mal. » On est humain. Et on peut toujours dire « Mais on est humain, donc on va toujours avoir des soucis. » C'est vrai, on va toujours avoir des soucis. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Corrie ten Boom, une Hollandaise, que peut-être vous connaissez déjà le nom, qui était dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a dit « S'inquiéter pour quelque chose ne vide pas demain de sa douleur, mais vide aujourd'hui de sa force. » La question pour nous, toujours, c'est comment gérer les soucis. La foi dont la Bible parle, c'est mettre sa confiance ailleurs que dans les circonstances. C'est l'opposé de la peur ou la panique. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Qui est l'Éternel? Si l'Éternel n'est pas fidèle lorsque cela va mal pour nous, alors c'est dans quel Dieu qu'on a mis notre confiance? Un Dieu qu'on a mis dans une boîte qui est uniquement puissant si on le comprend à 100%. La Bible parle, au lieu d'avoir peur ou de craindre des circonstances, la Bible parle de craindre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? En Proverbe, Salomon a dit « La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. » La crainte de l'Éternel veut dire le respect pour Dieu. C'est dans cette relation de respect pour Dieu que tu trouveras la sagesse. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Ceux qui craignent l'Éternel, dit le psalmiste, sont délivrés de leur peur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Craindre Dieu, c'est lâcher prise, c'est prendre une décision. Ce n'est pas quelque chose qu'on vit passivement parce qu'on est des gens super spirituels. C'est s'abandonner à Dieu. Dans le chapitre de Luc 12, Jésus parle des soucis et des inquiétudes. Luc reprend le sermon sur la montagne qu'on lit d'habitude en Matthieu 6. Et en parlant des soucis, Jésus n'a jamais dit « Ne vous inquiétez pas parce qu'il n'y a jamais de quoi s'inquiéter ». Il a dit « En dépit de toutes les inquiétudes qu'on peut avoir, je vous dis « Ne vous inquiétez pas ». Il nous donne cette manière de traiter nos soucis, nos inquiétudes, nos peurs. Premièrement, craindre Dieu et rien d'autre. Jésus a dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Craignez plutôt Dieu. » Deuxièmement, connaître sa valeur devant Dieu. Jésus a dit « Vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Alors pourquoi vous inquiétez pour ce que vous allez manger ?» Troisièmement, ne pas rater le but de la vie. Il y a une phrase en anglais qui dit « A person wrapped up in themselves makes a very small package. » Wrapped up in themselves, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à lui-même et à ses propres besoins. Et donc la phrase en anglais veut dire quelque chose comme « Quelqu'un qui est enveloppé en lui-même, en fait, fait un très petit colis. » Il n'est pas si important que ça. Jésus a dit « Ne ratez pas la vie. » Mettez votre confiance dans l'Esprit Saint. Ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous auriez à dire pour votre défense si vous allez être persécuté. Jésus aussi dit « Se rendre compte que s'inquiéter est infructueux. Qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ? Vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses. Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres ? » Mettez votre confiance dans le soin et la provision de Dieu, a dit Jésus. Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, avec quoi allons-nous nous habiller. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Et puis la clé de tout, cherchez d'abord le royaume de Dieu. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. La confiance et l'obéissance vont de pair. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Ainsi, nous ne craignons rien. Il faut prendre une décision de ne pas s'inquiéter pour demain, de se confier à Dieu pour pourvoir nos besoins un jour à la fois. Pour citer Corrie ten Boom, une deuxième fois, l'a dit « L'inquiétude est un cycle de pensées inefficaces qui tourne autour d'un centre de peur. » Mettre sa foi en Jésus, c'est connaître la paix. Ne voir que nos inquiétudes et ne pas demander à Dieu de pouvoir voir au-delà, c'est le contraire de la paix et la joie que Jésus peut nous offrir. Lorsque Moïse passer le bâton à Josué à la fin de sa vie, lui a dit en Deutéronome 31, « L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaisserait pas et il ne t'abandonnerait pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Moïse ne l'aurait pas dit à Josué s'il n'y avait pas de raison potentielle pour la peur ou le découragement. C'était plutôt parce qu'il savait qu'il y aurait de quoi s'inquiéter, avec beaucoup de découragement. Pour revenir à notre psaume, dans le verset 4, les difficultés externes sont peu en comparaison avec le désir profond de la part du psalmiste pour expérimenter de manière plus intense la présence de Dieu. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait qui me tient vraiment à cœur, Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Ce qu'il veut plus que tout, c'est contempler la beauté de l'Éternel, de le chercher dans son temple, chercher à le connaître, louer Dieu sur ses termes. Louer Dieu, c'est lui faire confiance. On a chanté tout à l'heure, dans la présence de Dieu, la peur s'en va, s'enfuit. L'ardent désir pour le temple de Dieu exprime l'intensité de sa recherche de Dieu. La jouissance de la présence de Dieu assure la bonne bonté évidente et l'amour de Dieu. David voulait admirer Dieu dans sa beauté. Lorsqu'on regarde au Seigneur et on le découvre pour qui il est, on ne peut pas voir les yeux et sur lui et sur le découragement en même temps. On peut crier à lui pour nous aider face au découragement, face aux inquiétudes. La beauté de Dieu était une expression de sa bonté envers son peuple. Lorsque Moïse a vu la gloire de Dieu, l'Éternel lui a révélé son amour et sa compassion. Exode 34, l'Éternel descendit dans la nuée et se tint là près de lui et proclamait son nom. Il passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. » David ne cherchait pas à s'échapper de la réalité. Mais il voulait rester près de Dieu jusqu'à ce qu'il soit assuré de sa présence glorieuse. Je me souviens d'un pasteur sud-africain. On avait souvent des pasteurs sud-africains qui nous rendaient visite à des conventions en Irlande et en Écosse, qui parlait une fois sur prière, louange et adoration. Il a raconté cette histoire d'un homme qui se noyait dans une rivière, qui était sauvé par un passant. Lorsqu'il était dans l'eau, en train de crier au secours, il priait pour que quelqu'un lui vienne en aide. Une fois arrivé sur le bord, sain et sauf, il remercie la personne, ce monsieur qui l'avait sauvé. Il l'a remercié. Il l'a loué pour ce qu'il avait fait. Le monsieur qui l'avait sauvé l'a invité ce soir-là chez lui, et pendant la soirée, lorsqu'il passait du temps avec ce monsieur qu'il avait sauvé, il s'est rendu compte de la gentillesse de ce monsieur, de son caractère bienveillant. Il aimait simplement sa compagnie, être avec lui. C'est un peu pareil lorsque David voulait adorer Dieu, passer du temps dans sa présence où tout ce qui était au centre, c'était l'Éternel. Parfois, être dans la présence de Dieu révèle la présence de péché dans notre vie, dans nos attitudes, dans nos réactions. En Isaïe 6, Isaïe s'est rendu compte de sa petitesse, de son impureté, de la sainteté de Dieu, mais Dieu est intervenu pour le rappeler qu'il avait été pardonné. David cherchait le Seigneur dans son trouble. Il se peut que le roi veuille être assuré de la présence de Dieu avant de conduire Israël en bataille, une pratique assez courante. Mais il anticipe la réalité de trouver la protection pour lui-même et son peuple dans l'abri du temple, au verset 5. Il a la confiance de savoir qu'il se trouve entre les mains protectrices du Tout-Puissant. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dieu était ce rocher, un rocher pour ceux qui mettent en lui leur confiance. Le verset 6, et c'est là où je termine, « Quand Dieu protège les siens, il les met sains et saufs sur un rocher hors d'atteinte et donne à son peuple une raison de se réjouir. Célébrer l'Éternel bannit la crainte. » Le psalmiste anticipe une victoire sur ses ennemis qui avaient troublé le peuple de Dieu. Il s'engage à offrir les sacrifices à l'Éternel comme expression de dévouement. Il sait qu'il ne peut pas acheter Dieu avec ses offrandes, mais il sait que l'Éternel l'Éternel de l'Alliance prend soin des siens. Je ne sais pas pour qui est ce message ce matin, je pense que c'est probablement pour nous tous. Lorsque Philippe m'a demandé d'apporter la prédication ce matin, je dis j'ai plein de choses en ce moment, si c'est sur la louange, ça va aller très bien. Parce que j'ai deux études bibliques sur le même sujet autour de ce dimanche. Mais lorsque je commençais à regarder ce psaume, j'ai dit mais il y a trop de choses dans ces premiers versets. Et puis, notre vie loue Dieu si on le suit, si on s'abandonne à lui. Et ces versets de peur et de crainte, au début, ou mis en évidence, ne sont pas des raisons d'avoir peur lorsque notre Dieu et l'Éternel qui nous protège, me semble être quelque chose de très pertinent pour moi et j'espère pour vous aussi. L'Éternel veut prendre le poids de nos soucis. Le malin est très heureux lorsque les chrétiens sont découragés, lorsqu'on n'ose rien pour Dieu. Il est tranquille et peut-être il nous laisse tranquille. C'est lorsqu'on met notre confiance dans l'Éternel et on veut que l'Éternel s'intervienne aussi dans le quotidien que là il commence un petit peu à avoir des soucis. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7 dit « Déchargez-vous sur Jésus tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Après sa mort, le fils de David a dit « Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il gardera ton pied de tout piège. » Prions ensemble. Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu es intervenu dans notre vie et tu veux intervenir de nouveau. Tu veux qu'on marche tous les jours avec toi, à ne pas nous appuyer sur des bénédictions d'hier, mais tu veux, Seigneur, qu'on mette toute notre confiance en toi, que lorsqu'arrivent les soucis qui semblent être là de manière constante, nous puissions te les confier. Toi qui es l'Éternel, toi qui protèges notre vie, toi qui nous as créés humains comme on est, mais tu nous as créés, Seigneur, pour marcher en relation avec toi. Quelles que soient nos circonstances dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, que nous puissions regarder à toi. Donne-nous, Seigneur, une autre perspective que de voir que les montagnes devant nous. Aide-nous, Seigneur, à voir toi dans la réalité que tu es plus grand que les montagnes, que tu es plus grand que tous les soucis du monde et tu veux marcher avec nous. Glorifie-toi, Seigneur, dans ma vie, dans notre vie, afin que nous puissions nous abandonner à toi et être dépendant entièrement de toi, parce que toi, tu peux faire tout. Au nom de Jésus. Amen.
Merci beaucoup, David. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on a reçu beaucoup de bonnes choses ce matin. Et c'est important pour moi que ces choses ne se perdent pas. On a parlé des soucis. Il y a une autre parabole qui parle des soucis, la parabole du semeur, où il est dit que les soucis de la vie sont comme des ronces qui empêchent ces semences de porter du fruit dans nos vies. Donc si ce matin, vous faites partie de ces gens, comme la plupart d'entre nous finalement, qui avaient des soucis, peut-être un petit peu trop. Prenez une décision ce matin avec ce que vous avez entendu. Ne laissez pas simplement ce message passer. Prenez-le avec vous, laissez descendre dans votre cœur. Prenez une décision devant Dieu. Parfois, il est utile d'écrire quelque chose pour avancer avec Dieu, pour dire « Oui, Seigneur, je veux te faire confiance et je ne veux pas me laisser accaparer par toutes ces choses de la vie qui font que je ne porte plus de fruits ou moins de fruits que ce que je devrais. » Josué et David ont beaucoup de points communs. On en a parlé aujourd'hui. Ils étaient tous deux à la tête d'une armée, à la tête d'une nation. Ils avaient donc beaucoup de potentiel, de soucis dans leur vie. Et on le voit, ce n'était pas toujours évident. Souvent, les soucis les ont envahis, ont pris le dessus. Mais tous deux aimaient vraiment la présence de Dieu. On l'a vu en début du culte, Josué aimait rester dans la tente. Plus tard, il y a eu le tabernacle. Et puis plus tard, il y a eu le temple, où on a vu que David, lui aussi, aimait passer du temps dans la maison de l'Éternel, dans le temple. Et puis Jésus, en mourant sur la croix, a déchiré le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, nous donnant accès à Dieu, un accès que beaucoup de gens dans l'Ancien Testament ont rêvé d'avoir. Cet accès qui était tellement limité est maintenant ouvert pour nous tous. Nous pouvons à chaque instant avoir accès à Dieu. Et c'est cela que nous allons aussi, nous allons nous souvenir de cela, nous allons célébrer cela en prenant maintenant le repas de la scène tous ensemble. J'invite les musiciens à venir sur scène et puis David à venir aussi m'assister. Il y a tellement de choses à dire à propos du sacrifice de Jésus. Ce sacrifice a été tellement, tellement grand dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de Dieu avec les hommes. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on peut se concentrer sur ce fait-là, le fait qu'il a déchiré le voile et qu'il nous a donné accès à sa présence. Alors, je vais lire l'institution de la scène dans Matthieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Est-ce que tu es d'accord de prier pour la scène?
Merci Seigneur que tu es mort à notre place. Merci que tu t'es donné. Nous ne pouvons pas comprendre toute la souffrance, Seigneur, et la douleur que tu as prise, Seigneur, ce jour-là, ce vendredi-là, à Jérusalem. Mais merci, Seigneur, que tu l'as fait parce que tu nous aimes. Parce que tu voulais, Seigneur, que ce prix soit payé pour nos péchés, pour qu'on soit libre. Merci, Seigneur, pour le salut qui est en toi. Merci que tu es mort à notre place, que tu t'es donné, que ton sang a été versé pour nous. Que nous pouvons aujourd'hui venir devant toi et accepter ton pardon et ton salut. Amen.
Alors, merci aux personnes qui se sont portées volontaires de s'approcher. Donc, pour ceux qui sont en visite parmi nous, sachez qu'au milieu des plateaux, il y a du jus de raisin dans les petits gobelets violets. Et dans les gobelets blancs, il y a du vin. Et puis, pour ceux qui le désirent, il y a aussi une coupe qu'on peut passer au milieu de nous. Signalez-vous simplement.
Seul souhait dans ce monde de te rencontrer chaque jour que je vis, je cesse de croire en ton amour, en ton amour. Tu es mon maître et je me soumets à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère et me relève. Dieu de bonté et de majesté, je t'aime.
J'invite Michel à me rejoindre pour les annonces. Et puis, pendant que les annonces seront faites, nous allons prendre une offrande. Sachez que si vous êtes de passage parmi nous, cette offrande, vous êtes tout à fait libre d'y participer ou non. Elle est là pour les besoins de l'Église et puis pour les besoins de ceux qui sont envoyés aussi par l'Église. Merci d'avance pour votre générosité.
Après ce culte, il y a un repas canadien avec nos invités du jour, Jean-Claude et Ditcha Saillon, qui seront là. Vous pourrez échanger. Ils sont donc serviteurs en Italie, envoyés par notre Église. Si vous n'avez rien prévu, vous pouvez quand même venir. On aura suffisamment à manger. Mardi 24 avril, la prière communautaire à 20h15 ici. Et mardi 24 avril, dans l'après-midi, à 14h30, la rencontre des aînés avec Guy Gentison autour de la thématique d'Israël sur les pas de Jésus que racontent les quatre mers. Il doit manquer, oui. Méditerranée, Galilée, mer Rouge, mer Morte. Voilà. Nous avons ensuite, mercredi 25 avril, la conférence du professeur Rodrigo de Souza, qui est professeur à Jean Calvin, la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence, sur les prophéties de la Bible qu'ont-elles à nous dire aujourd'hui. C'est organisé par notre église sœur, l'église évangélique de Coligny, à 20h. Il y a des papillons à la sortie. Mardi 1er mai, donc la semaine d'après, le quatrième temps de l'atelier biblique consacré à le culte, ingrédients et créativité. C'est David Porter qui sera responsable de ce quatrième temps, loué dans la joie, mais que fait-on des psaumes de lamentation dans la louange? Et 5 mai, 18 mai, des rencontres de formation. Je laisse la parole à Claude.
Merci. Nous aurons la joie de célébrer des baptêmes. C'est toujours un moment festif pour une église d'être les témoins de gens qui s'engagent à suivre le Seigneur Jésus et à s'identifier et identifier leur vie avec le projet du Seigneur. C'est pas vrai? Alors, nous aurons des baptêmes qui auront lieu en juin et deux rencontres de préparation au baptême. Si des personnes s'identifient avec le Seigneur ou ont des questions par rapport au baptême, vous pouvez encore vous joindre à nous. Nous aurons samedi le 5 mai, ici, de 10h à 12h sur le contenu du baptême et le vendredi 18 mai sur l'engagement du baptême. Voilà, avis à la population, pour ceux qui aiment Jésus, c'est une opportunité.
Merci. Samedi 26 mai, le mariage d'Alexia et Sylvain avec, vous pouvez donner un coup de main pour l'apéro. Pour cette fête, le contact, c'est Rebecca Perrin, qui est là aujourd'hui et qui attend votre inscription. Et encore des demandes, toujours le nettoyage, je ne me découragerai pas. Voilà, on voit concrètement, on a besoin de deux personnes pour compléter un groupe. C'est un groupe qui ferait les nettoyages les jeudis en fin d'après-midi. Deux personnes pour compléter un autre groupe qui travaillerait le vendredi aux alentours de 17h30 et puis des remplaçants, quelques remplaçants. Je vous rappelle que nettoyer, c'est 2 heures, 3 fois par année. Vous pouvez vous inscrire sur le tableau à la sortie. Claire-Lise Serex est là, elle agite la main actuellement. Voilà, si elle est prête à vous renseigner. Et puis, c'est également Claire-Lise Serex. À la recherche d'un objet perdu, vous avez perdu votre chapeau, votre anorak, votre doudou, etc. Il y en a tout un lot, toute une quantité qui sont dans un coffre au fond de la salle. Le coffre n'est pas verrouillé et vous pouvez les récupérer. Voilà, vous pouvez seulement venir vers Claire-Lise qui vous donnera le moyen de les retrouver.
Voilà, c'est marqué bon dimanche, mais attendez, ça n'est pas encore tout à fait fini. Vous l'avez entendu, nous avons des amis de passage parmi nous, et puis nous voulions leur laisser un petit peu de temps pour qu'ils puissent nous donner des nouvelles. Alors venez seulement. Donc Jean-Claude, c'est un peu bas maintenant.
Qui vient tout seul pour l'instant.
Voilà, j'ai été élu porte-parole de notre couple. J'ai pas choisi. Il y aura un moment de partage pour ceux qui restent avec nous pendant le repas communautaire, donc vous aurez le plaisir d'entendre la voix de Licha. Et voilà, on voulait simplement profiter, parce que pas tout le monde va rester, pas tout le monde nous connaît, donc de saluer l'Église. Comme Michel l'a dit, nous sommes des vieux Mérinois, dans le sens, ça fait bien des années que nous avons quitté Mérin, il y a assez de cheveux blancs qui en témoignent. Nous sommes en Italie depuis 1983, et je ne sais pas si on peut juste projeter l'image. Une image qui résume en fait notre engagement, on va dire ça de façon assez télégraphique. Il y a trois logos qui représentent trois domaines où nous sommes engagés. Le domaine central, c'est quand même le ministère qui nous a beaucoup engagés au fil des années. C'est un ministère couple et famille avec cette association que nous avons créée qui s'appelle Insieme. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce qu'un ministère couple et famille. C'est un ministère que nous avons redimensionné récemment pour avoir plus de temps pour des activités locales où on est quand même branché sur les besoins des familles. Et c'est l'arbre de vie, le projet arbre de vie. Un groupe de Mérinois nous a visités aussi. Ça nous a fait énormément plaisir quand nous étions dans la phase des débuts enfin, encore de l'arbre de vie. En fait, l'idée est très simple, c'est d'essayer d'avoir un impact local en créant des liens avec des personnes, et on le fait en particulier en offrant un service d'aide scolaire pour les enfants, et ça se passe bien, on a bien du monde. On a d'autres projets dans les tiroirs, enfin, on vous racontera d'autres choses, on se pose des questions sur la stratégie pour continuer, mais enfin, c'est une activité qui se passe bien. On a aussi, à la fin de l'année scolaire, un ou deux camps, pour, un centre scolaire, je ne sais pas comment on appelle ça en France, un centre solaire, enfin un endroit où les enfants viennent pour la journée et on offre une animation. Et on attend de 80 à 100 enfants de notre commune pour cette activité. L'activité demande aussi des forces, demande de ne pas être seul dans le travail. Et nous avons aussi une église qui est derrière nous. Nous avons une communauté très proche de nous que certains ont connue lors de leur visite. Mais après une année et demie, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas vraiment dans le projet et on a dû un peu changer le fusil d'épaule. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais enfin, actuellement, nous sommes engagés dans, et c'est le troisième logo, une autre communauté proche de chez nous qui a à cœur cette façon de vivre l'Évangile d'une façon pratique. Et c'est une église aussi qui vit un nouveau démarrage après des temps très difficiles. Et ils ont à cœur de nous aider et nous, on a à cœur d'être un encouragement particulier pour le groupe provisoire qui à la responsabilité de conduire cette église dans une phase de redémarrage. Une église, juste pour vous donner une idée, au fil des dernières années, ils ont perdu la moitié de leurs membres. Et maintenant, il y a vraiment un virage à 180 degrés et le désir de repartir sur une base totalement différente avec des responsables différents, etc. Et on est très heureux dans ce contexte et on a plaisir à aider et être un motif d'encouragement pour cette communauté. La communauté vous salue bien aussi. Ils nous ont chargé de transmettre leurs salutations. Voilà, c'est tout. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'une ou deux personnes seraient d'accord de prier pour nos amis? Allez-y simplement, quand vous êtes prêts.
De rester. instaurer les couples et les familles, là où le diable a fait la division et la casse. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de la grâce. Pour ta parole, pour ces communautés, nous te prions que ton bon esprit les anime, pour qu'elles prolongent ce que tu as fait parmi nous, Seigneur Jésus, par ton esprit. Amen.
Amen. Amen. Levons-nous pour la bénédiction. Je vais lire un passage dans Hébreux 13, 15 à 16. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors soyez bénis dans cette semaine et passez du temps dans sa présence. Amen. Bon dimanche.